Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons ensemble nos Bibles dans Matthieu, chapitre 19. Nous revenons à la section de l'enseignement de Jésus sur le divorce. Matthieu, chapitre 19. Et nous examinerons les 12 premiers versets. Pendant les deux dernières semaines, notre étude de ce passage important était tout d'abord focalisée sur la création divine du mariage, pendant que nous étudions les 6 premiers versets. Maintenant, alors que nous nous focalisons sur la deuxième série de 6 versets, les versets 7 à 12, nous allons examiner plus particulièrement la question du divorce. Maintenant, souvenez-vous que le verset 1 dit « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, nous vous avons dit que cela marquait la fin d'un propos. C'est son propos du chapitre 18 qu'il concluait sur l'attitude d'un enfant que doit avoir le croyant. Un grand enseignement. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée. Et nous avons noté que cela signifiait la fin du ministère de la Galilée, une période de plusieurs années, durant lesquelles il avait articulé sa nature messianique, durant lesquelles il avait rassemblé et formé ses disciples, et qui était maintenant terminée. Et il quittait cette région. Il est dit, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Cette région était connue comme la région de l'au-delà, appelée Pérée. Il entra donc à Pérée, et dans les chapitres 19 et 20, nous voyons son ministère à Pérée. Maintenant, il va vers le sud de Pérée, parce que sa destination est Jérusalem, où il mourra et ressuscitera. Nous allons donc vers l'apogée de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le ministère de Pérée, on voit au verset 2 que de grandes foules le suivirent. Vous vous souvenez que Marc 10 ajoute qu'il les enseignait, et Matthieu dit « Et là, il les guérit ». Nous voyons donc que le Seigneur Jésus délocalisait son ministère d'enseignement, de guérison, de démonstration, de ses capacités messianiques, de la Galilée à Pérée, un lieu à cette époque où vivaient de nombreux Juifs qui avaient besoin d'être exposés à leur Messie. Maintenant, pendant qu'il est à Pérée, il est confronté par ses rivaux jurés, les pharisiens, et nous voyons l'attaque au verset 3. Et c'était le premier point de notre canevas, l'attaque. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Maintenant, ils voulaient confronter Jésus avec une question à laquelle il ne pouvait pas répondre. Ils voulaient le piéger. Ils savaient ce qu'ils croyaient. Ils savaient qu'ils croyaient qu'il n'était pas légal, ni permis de divorcer pour n'importe quel motif, et ils voulaient qu'il le dise, afin de perdre sa cote de popularité auprès du peuple. Il voulait qu'il le dise aussi, afin de devenir impopulaire devant le gouverneur en exercice, nommé Hérode Antipas, qui avait déjà fait décapiter Jean-Baptiste pour avoir tenu des propos similaires, parce que lui-même était illégitimement divorcé et remarié. Il pose donc la question, au verset 3, pour mettre Jésus dans une position impossible, aussi bien avec le peuple qu'avec le gouverneur de la région. Nous parvenons au verset 4 ensuite. Et la réponse, c'est notre deuxième point majeur dans le canevas. La réponse, il répondit. Et pendant qu'il parle, il énonce 4 raisons pour lesquelles le divorce n'est pas permis, pour n'importe quel motif. Mais il répond de manière à ce qu'il n'ait aucun moyen de l'en tenir responsable. Parce qu'il répond en citant l'Écriture. Il leur dit de façon presque acerbe. N'avez-vous pas lu? Ignorez-vous les Écritures, vous qui êtes censés être les enseignants de la loi? Vous qui prétendez tout savoir de la révélation de Dieu, n'avez-vous pas lu que Dieu dit qu'il les fit au commencement, hommes et femmes? N'avez-vous pas lu qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. N'avez-vous pas lu ce que Dieu dit? Jésus s'appuie donc sur Genèse 1, verset 27, et Genèse 2, verset 24, pour dire « Je ne fais que m'accorder avec Dieu », ce qui finit par mettre les pharisiens en mauvaise posture, ainsi que tout le monde. En effet, s'ils se mettaient à discuter avec lui, et discuterai avec Dieu. Maintenant, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait 4 raisons pour lesquelles la réponse est non. Il n'est pas permis de divorcer pour n'importe quel motif. Première raison, Dieu avait créé un homme pour une femme. Deuxième raison, Dieu avait créé un lien fort, indiqué par le terme « s'attacher » au verset 5. Troisièmement, il fit d'eux une seule chair, verset 5. Ensuite, le verset 6 dit, « Une fois que vous êtes une chair, vous devenez indivisible, parce que vous n'êtes plus deux. » C'est la troisième raison, une chair. Et enfin, le mariage est une œuvre divine, et ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. 4 bonnes raisons pour lesquelles le divorce n'est pas permis, pour n'importe quelle raison. Et nous avons vu qu'en le disant, Jésus réaffirmait le standard de l'Ancien Testament pour le mariage. Il affirmait que Dieu voulait que le mariage soit une relation monogamique, à vie, entre deux personnes. La dernière fois, nous avons en quelque sorte décortiqué cette pensée à travers l'Ancien Testament, et nous avons vu qu'elle n'a jamais changé, n'est-ce pas? Vous allez tout à la fin de l'Ancien Testament, le dernier livre, le livre de Malachie. En cela, Dieu réitérait aussi exactement ce qu'il avait dit dans Genèse. Il dit dans Malachie 1, « Le divorce m'est haïssable. » Alors Dieu n'a pas changé d'avis du début à la fin de l'Ancien Testament. Le divorce lui est toujours haïssable. Maintenant, quelqu'un pourrait demander en réponse à tout ce que nous disons dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui fait un mariage? Lorsque nous disons que personne ne désunisse ce que Dieu a uni, qu'est-ce qui fait un mariage? Certaines personnes ont essayé de dire, « Bien, c'est la relation sexuelle qui fait le mariage. » Il suffit donc d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et vous êtes automatiquement marié, parce que c'est cela l'essence d'une chair, et c'est vraiment cela le mariage. Mais ce n'est pas vrai, selon la Bible. Si le sexe suffisait pour faire un mariage, il n'y aurait rien de tel que la fornication, parce que deux personnes qui entretiennent une relation sexuelle sans être mariées ne commettraient pas la fornication. Elles seraient en train de se marier si le sexe résumait le mariage. Mais Dieu dit que lorsque deux personnes qui ne sont pas mariés, commettent un acte de relation sexuelle ensemble, ce n'est pas le mariage, c'est le péché, c'est la fornication. Plus loin, Exode chapitre 22, versets 16 et 17 dit « Si un homme couche avec une femme, il devra l'épouser, pour avoir pris sa virginité », ce qui signifie que le simple fait d'avoir couché avec elle n'a pas établi le mariage. Il doit l'épouser, ou si le père refuse, il devra payer au père une somme suffisante pour le compenser pour cet acte, dans un certain sens. Il a volé quelque chose à sa fille, mais il n'est pas considéré comme marié à cause de cet acte sexuel. Au contraire, tenu de se marier, ultérieurement. Plus loin encore, l'adultère ne dissout pas un mariage. Dans Malachie 2, comme je l'ai mentionné, il est dit que Dieu est le divorce. Mais le verset 14 dit aussi autre chose. Tu as été témoin, le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et ceci signifie que peu importe ce que vous avez fait en commettant l'adultère, c'est ce qu'ils avaient fait, tu l'as trahi, mais elle reste ta femme. Comment ça? Parce que c'est la femme de ton alliance. Ce n'est pas l'acte sexuel qui fait un mariage, c'est l'alliance qui fait un mariage. C'est l'union de deux personnes qui font vœu d'une alliance pour se tenir compagnie à vie. La Bible affirme que c'est l'alliance qui fait le mariage. Le mariage est un arrangement d'alliance pour une compagnie à vie. Ainsi donc, lorsqu'une personne entretient une relation sexuelle avec une autre, cela ne fait pas un autre mariage. C'est juste un péché commis contre l'alliance de mariage qui lie cette personne. C'est donc une alliance d'un vœu de compagnie à vie qui constitue le mariage. Chaque fois que cela arrive, chaque fois que deux personnes contractent cette alliance, qu'elles soient sauvées ou non, elles s'unissent dans une union ordonnée et créée par Dieu, qui ne doit donc jamais être divisée. Voilà l'essence de ce que dit notre Seigneur, et c'est cela sa réponse. Passons maintenant au troisième point ce matin, et voyons jusqu'à quel point nous pouvons aller dans cet argument, verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, les pharisiens, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Maintenant, ce qui m'impressionne ici, c'est qu'ils ne s'intéressent pas du tout à l'idéal divin que le Seigneur vient de leur présenter. Le Seigneur a affirmé le mariage à vie. Le Seigneur a dit que Dieu déteste le divorce, essentiellement. Cela n'a jamais été l'intention de Dieu depuis le départ. Mais l'idéal divin ne les intéresse pas. Ils ne s'intéressent qu'à l'exception. Et c'est cela l'attitude des pécheurs. Vivre par la loi ne les intéresse pas. Ils s'intéressent plus à rechercher les brèches, c'est tout. et les pharisiens sont des cas pratiques de personnes qui cherchent des brèches dans la loi de Dieu. D'une part, ils veulent que l'on pense qu'ils respectent la loi de Dieu, parce que c'est de cette façon qu'ils entrent dans les grâces de Dieu. D'autre part, ils veulent trouver toutes les issues possibles, l'exception est donc ce qui les intéresse, pour qu'ils puissent accommoder leurs convoitises, leurs multiples divorces et adultères. Une fois encore, ils sont très rusés et essaient de piéger Jésus, à prendre position contre Moïse. S'ils peuvent réussir, ce sera un autre moyen de discréditer Jésus auprès du peuple, n'est-ce pas? Parce que le peuple révère Moïse, après Dieu, et s'ils réussissent à opposer Jésus à Moïse, ce sera pour eux un accomplissement très important. Ils disent donc, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier ?» En d'autres termes, si tu dis que tout ceci est vrai, pourquoi Moïse avait-il donc recommandé le divorce? Maintenant, cette question est très lourde, parce que Moïse n'avait pas recommandé le divorce, mais ils avaient bien choisi leurs mots. Voyons ce que Moïse avait dit. Retournez dans vos Bibles dans Deutéronome 24, parce que c'est le passage qu'ils ont en pensée. C'est le seul passage de Moïse qui donne une affirmation définitive sur le divorce. Deutéronome chapitre 24. Maintenant, afin de comprendre ce passage, nous devons reconnaître au commencement que la version autorisée, King James, n'est pas ferme sur l'interprétation exacte ou la traduction exacte de ce texte, et donc nous sommes redevables à la version New American Standard Bible de l'avoir correctement traduit. Laissez-moi vous le lire très, très attentivement pour que vous compreniez ce qu'il dit. Voici le passage sur lequel il s'appuie, le passage dans lequel il prétend que Moïse a recommandé le divorce. Écoutez ce qu'il dit. « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, nous lisons les versets 1 à 4, qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison, elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Nous allons nous arrêter là. Voyez-vous maintenant l'image? Ce sont là les deux premiers versets. Ce gars épouse une femme, et il s'avère qu'elle ne lui plaît pas. Elle n'obtient pas sa faveur, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant. Il lui écrira une lettre de divorce et la lui remettra en main. Puis elle quittera la maison et s'en ira, parce qu'elle sera légalement divorcée par ce papier, et elle deviendra la femme d'un autre homme. Maintenant, je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a pas de commentaire sur cet incident. Le texte ne dit pas que l'homme avait fait ce qui était juste. Le texte ne dit pas que la femme faisait ce qui était juste. Il ne dit pas que ce que l'homme avait fait était mauvais, ou ce que la femme avait fait était mauvais. Il ne dit rien. Il ne dit pas que Dieu lui ordonnait de la répudier. Il ne dit pas qu'il devait la répudier. Dieu ne dit pas qu'il avait fait ce qui était juste en la répudiant. Il n'y a absolument aucun commentaire de la part de Dieu ou de Moïse. C'est tout simplement une illustration d'un monsieur qui avait épousé une femme, a constaté une inconvenance, a voulu s'en défaire, lui a donné un certificat de divorce, l'a renvoyé de sa maison et elle s'est remariée. C'est tout en ce qui concerne les deux premiers versets. Continuons au verset 3. Si ce dernier homme cesse de l'aimer, écrit pour elle une lettre de divorce. Maintenant, le deuxième mari décide qu'il ne l'aime pas plus que le premier mari, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle a été souillée. Elle va chez le mari numéro 2, et celui-ci ne l'aime pas. Il lui donne une lettre de divorce et la renvoie. Entre-temps, le mari numéro 1 dit « Oh, tu sais, je me sens seul, et depuis ton départ, le repas n'est pas si bien fait, et j'ai beaucoup de travail à faire à la maison. Ta compagnie me manque, et je veux t'épouser. » La Bible dit qu'il ne le peut pas. Il ne peut pas l'épouser. C'est le premier commentaire fait sur l'incident. Il y a un commentaire dans Deutéronome 24, mais qui n'est pas en rapport avec le divorce. Il est en rapport avec le remariage. Il n'a pas le droit de l'épouser à nouveau. Même si le mari numéro 2 décède et qu'elle devient veuve, elle ne peut pas retourner chez le mari numéro 1. Pourquoi? Elle a été souillée, et c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Épouser cette femme est un péché. Épouser cette femme est un péché, parce qu'elle a été souillée. Maintenant, les rabbins juifs n'interprétaient pas ce passage ainsi. Ils l'avaient interprété comme étant un commandement à divorcer. Ce mari numéro 1 lorsqu'il découvrait une indécence en elle, il la répudiait, parce que c'était un commandement. Et ils ont conclu que le commandement ici est de répudier la femme. Et vous en êtes surpris. La version King James fait la même chose, puisqu'elle dit ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il aurait trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, alors qu'il écrive pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise, qu'il la renvoie de sa maison. Ils ont donc pris la même interprétation traditionnelle des rabbins. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Je ne vais pas vous entraîner dans la protase apodose de l'hébreu pour vous le montrer. Mais il vous faudra me faire confiance. Le contenu du texte n'a rien à voir avec un commandement à divorcer. Le texte dit « Si un homme fait ceci, il fait cela, alors il ne peut pas la reprendre. » Le commandement, c'est qu'il ne peut pas la reprendre. Non pas qu'il peut, non pas qu'il doit la répudier. Mais c'est sur cette interprétation de ce passage que les pharisiens avaient basé leurs multiples divorces. Aussi dirent-ils à Jésus, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier ? Et tout cela n'était qu'une mauvaise interprétation de Deutéronome chapitre 24. Ce passage n'approuve pas le divorce. Notez-le, ce passage ne préconise pas le divorce. Ce passage ne recommande pas le divorce. Ce passage parle du remariage. C'est un passage qui vise à réguler le remariage. Maintenant, à titre d'information, il y a plusieurs autres endroits dans l'Ancien Testament où la question du divorce est mentionnée. Deutéronome 22, versets 19 et 29. Lévitique 21, versets 7 et 14. Il mentionne aussi le divorce, mais ne l'approuve pas. Il ne le recommande pas. Il ne l'ordonne pas. Ils ne font que reconnaître son existence. Et ce passage fait pareil. Il ne fait que reconnaître l'existence du divorce. Il n'est pas recommandé. Il n'est même pas approuvé. Mais dans le passage, nous voyons qu'il y avait une cause liée à ce divorce. Et voyons-le, et nous comprendrons le passage, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconcevant. Permettez-moi que je vous dise ce que cela dit littéralement en hébreu. La nudité d'une chose. Il avait trouvé en elle la nudité d'une chose. Maintenant, il y a toutes sortes de possibilités pour ceci dans la tradition juive. Les juifs disent que cela pouvait faire référence à tout. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, les cheveux au vent, marcher dans la rue, en disant du mal de votre belle-mère, brûler le dîner, parler avec les hommes, n'importe quoi, et ils considéraient cela comme de l'inconvenance, ou une impureté, ou encore la nudité d'une chose, selon leur interprétation. Mais si vous voulez savoir comment interpréter la Bible, vous ne l'interprétez pas à votre guise, vous l'interprétez selon le contexte. Et si vous retournez juste un peu en arrière, au chapitre 23, vous trouverez que le même terme y est utilisé, et c'est très intéressant. Chapitre 23, verset 13. Ici, il est question de l'attitude à adopter face à l'évacuation physique. Tu auras parmi ton bagage un outil, et quand tu t'accroupiras au dehors, tu feras un creux, puis tu reviendras après avoir couvert tes excréments. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp sera donc saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien, et ici le terme d'inconvenant, et qu'il ne se détourne pas de toi. Il parle tout simplement d'enterrer ses excréments. Voilà ce qu'il dit. Parce que Dieu marche dans ton camp avec plusieurs personnes en passant. Il semble que c'était une question très évidente de décence. Et c'est exactement le même terme qui est utilisé en 24 verset 1. Il trouvait en elle quelque chose d'inconvenant, quelque chose d'impur, quelque chose de sale, quelque chose de honteux, d'impropre, de malséant pour une femme, d'embarrassant pour son mari. Mais il ne peut pas faire allusion à l'adultère, parce qu'à ce point l'adultère conduisait à quoi ? À la mort. Et le texte aurait dit « adultère ». C'est quelque chose de sale, d'embarrassant, de grossier, mais pas l'adultère, parce que Deutéronome 22 punit clairement l'adultère de mort, au verset 22 à 24. Donc, il doit s'agir ici d'autre chose que l'adultère. Maintenant, nous ne savons pas ce que c'était. Mais laissez-moi vous donner ce que je pense être la bonne compréhension. Si vous saviez que dans votre société, l'adultère conduisait à une peine de mort, vous pourriez faire plein de choses, mais vous préserver de l'adultère. N'est-ce pas vrai? Je veux dire que vous ne voudriez pas mourir. Ainsi, ce qui se passait apparemment, qu'il y avait des gens qui étaient indécents, sans scrupules. il y avait une indécence coutumière face au péché sexuel ou tout autre péché, mais l'on se préservait de commettre l'adultère, des actes qui frisaient d'adultère, et il semble que c'est ce qui se passait dans Deutéronome 24. Voilà une femme honteuse, qui est vile, et elle se préserve de commettre l'adultère pour ne pas être frappée de la peine de mort. Mais elle commet ses autres horreurs, et son mari la répudie. Et vous dites, bah, peut-être qu'il y avait une bonne raison à cela. Je me souviens, quand j'étais encore jeune dans le ministère, d'un couple qui avait divorcé, parce que la femme avait dit que son mari était ignoble du point de vue de son hygiène physique, et je ne l'oublierai jamais. Cela peut arriver, et peut-être qu'il y avait même cette possibilité. Je n'en sais rien. Mais il a divorcé d'elle. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Elle est sortie de cette union et a épousé un autre homme, et est immédiatement devenue comment? Souillée. Vous demandez pourquoi? Parce que ce n'était pas une raison pourquoi. Pour le divorce. Et dès qu'elle est entrée dans une autre relation active avec un homme, bien qu'elle ait eu un papier en sa possession, elle n'était rien d'autre qu'une femme adultère. Vous dites, ce n'était pas sa faute, il l'a répudiée. Vous avez raison. Il a fait d'elle une femme adultère. Et c'est exactement ainsi que le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 5, lorsqu'il dit que si vous répudiez votre femme pour autre chose que l'adultère ou la fornication, vous faites d'elle une femme adultère. Elle devient souillée. Et c'est la raison pour laquelle, même si son second mari meurt, le premier ne pouvait pas la reprendre, parce que Dieu ne veut pas qu'il épouse une femme adultère souillée. Et ainsi, Deutéronome 24 dit que si vous répudiez votre femme pour une raison autre que l'adultère, vous la poussez à commettre l'adultère, et quiconque l'épouse commet l'adultère, et la femme que vous épousez commet l'adultère. Vous proliférez littéralement l'adultère partout. Elle devient adultère parce qu'elle n'avait aucune base pour mettre un terme à la première union. La deuxième union était donc inacceptable à Dieu et se retrouvait dans la même catégorie que nous avons lue dans Matthieu 14 la dernière fois. Vous souvenez-vous, nous y lisions que Hérode, Antipas, avait épousé Hérodias. Mais la Bible dit qu'elle était la femme de son frère Philippe, parce que Dieu ne reconnaît pas la dissolution de la première union. Il ne reconnaît pas le mariage, par conséquent de la deuxième union légitimement, et donc il vit dans l'adultère. Deutéronome 24 ne recommande donc pas le divorce. Il recommande de ne pas épouser à nouveau une personne illégitimement divorcée. C'est une parole très forte, les amis. Vous ne voulez certainement pas épouser une personne illégitimement divorcée parce que vous épousez quelqu'un de souillé. Maintenant, vous voyez, Dieu protège le mariage. Et il dit ceci, « Vous ne pouvez pas répudier votre femme pour tout motif de votre gré. Autrement, vous ferez d'elle une femme adultère. Et vous ferez de celui qui l'épousera un adultère, ainsi que vous-même, et la personne que vous épouserez après. Alors sachez-le, et cela devra vous aider. » Quand vous pensez à vous séparer de votre femme, vous allez devenir adultère, et quiconque vous épouserait se retrouvera dans cette catégorie, ainsi que tout le monde. Et vous voyez, dans un sens, Dieu est en train d'essayer d'isoler la relation, à vie, entre un homme, une femme, la monogamie, en considérant l'alternative comme un désastre. Ce texte ne recommande donc pas le divorce. Il recommande de ne pas épouser une personne illégitimement divorcée. Revenons maintenant dans Matthieu chapitre 19, et j'aimerais vous faire remarquer au verset 8 et 9 l'affirmation. Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà ce que cela signifie. Ce n'était pas une recommandation, mais à cause de la dureté de leur cœur que fit Moïse. Il le permit. Il le toléra. Mais puis-je me précipiter d'ajouter qu'il ne l'avait pas toléré pour cause d'inconvenance. Il ne l'avait pas toléré pour cause d'inconduite, et il ne l'aurait donc pas toléré pour moins que cela. Il n'aurait pas accepté la répudiation parce que la femme avait brûlé le dîner. Permettez que je crée une expression pour un comportement vil, extramental. N'eût été pour cela, pour avoir vécu dans le vice, l'adultère et l'obscénité. À l'exception de ces motifs, il n'y aurait pas eu de divorce pour aucune autre raison, n'est-ce pas ? Comme parce que vous avez trouvé une femme plus belle, ou parce que votre femme a adressé la parole à la mauvaise personne, et parce que vous décidiez que vous vouliez passer à une autre aventure. Non, ce n'était pas pour cause d'adultère. Alors, ce n'était pas pour une cause, moins que celle-là. Alors Moïse l'avait permis, mais ce n'était pas dans le passage de Deutéronome 24 qu'il l'avait permis. Franchement, les amis, on ne sait pas où Moïse l'avait permis dans l'Ancien Testament. parce que ce n'est pas dit. Mais nous savons que cela avait dû être permis pour une raison légitime. Autrement, cela n'aurait pas fait l'objet d'une discussion pour une autre raison illégitime dans Deutéronome 24. Mais l'Ancien Testament ne nous donne pas un texte où il est dit « Je vous permets de divorcer pour telle cause ». Alors nous devons en quelque sorte le ressortir. Et je pense qu'il y a une raison pour cela. Je pense que Dieu avait évité de le dire. C'est une permission, mais en quelque sorte, loin derrière la scène. Ce n'est pas ouvertement dit, afin que les gens n'accourent pas à ce passage pour se justifier. Voici donc maintenant le point que ressort l'Ancien Testament. Le divorce, pour une raison autre que l'adultère, conduit à l'adultère. Et bien sûr, quand il y avait adultère, Dieu le punissait de mort. Mais dans sa grâce, et ici nous arrivons au verset 8, dans la grâce de Dieu, il y avait une transition dans l'Ancien Testament, de la mort au divorce pour cause d'adultère. Nous devons le comprendre, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il n'appliquait pas toujours la peine de mort. Par exemple, David avait-il commis l'adultère? Oui, plusieurs fois. Était-il mort? Non, Dieu était gracieux. Plusieurs autres avaient aussi commis l'adultère. Salomon avait-il commis l'adultère? Seul le ciel pouvait en savoir le nombre de fois. Il s'agit ici de savoir que la grâce de Dieu est manifeste dans l'Ancien Testament, et quelque part Dieu, dans sa tolérance, a épargné les vies et permis le divorce. Si le mariage ne pouvait être dissous par la mort à cause de l'adultère, alors je suis convaincu que Dieu ne pouvait permettre la dissolution du mariage, le divorce, qu'en cas d'adultère, et puis seulement là où il y avait la dureté du cœur. La dureté du cœur. Vous voyez, le point est celui-ci. Quand il y avait un problème irréconciliable, en d'autres termes, vous avez un partenaire dans un mariage qui vit une relation d'adultère et qui ne veut pas l'abandonner, et il n'y a aucun moyen de le ramener, et il n'y a aucun moyen de le restaurer. Dieu pourrait faire grâce à cette personne adultère, mais là où ce cœur endurci n'est pas souple, Dieu permettrait le divorce pour que le partenaire innocent soit libre de se remarier. Je crois que lorsque l'on a quelqu'un qui ne se repent pas, qui est irréconciliable, on a un cœur endurci, et vous poursuivez votre adultère de façon endurcie. Alors Moïse a dû permettre, non approuvé, pas recommandé et pas ordonné, mais a dû permettre le divorce, quand Dieu était gracieux et ne punissait pas de mort. C'est tout ce que nous pouvons comprendre, autrement, rien n'aurait de sens. Nous ne pouvons pas donner plus de latitude que la parole de Dieu. C'était une concession suite à un péché, pour rendre la vie supportable pour la victime du péché. Je crois donc que Dieu ne punira pas la victime innocente, parce qu'il était gracieux, et ne tuait pas le coupable, le comprenez-vous? En effet, si Dieu tuait le coupable, la victime innocente serait comment? Libre. Mais ce n'est pas parce que Dieu fait grâce au coupable qu'il va pénaliser l'innocent. Moïse a permis le divorce, mais ce n'était pas, verset 8 dit, le début de ce verset, que ce n'était pas le dessein originel de Dieu. Maintenant, j'espère que vous comprenez ceci, parce que cela semble être devenu sujet à confusion de nos jours, alors que la parole de Dieu est très claire dessus. Alors, Deutéronome 24 n'autorise pas le divorce. Il ne fait qu'interdire le remariage. En passant, au cas où vous seriez confus au sujet d'un passage dans Marc chapitre 10, où il est question de Deutéronome 24, énoncé comme un commandement. Deutéronome 24 est bel et bien un commandement, mais pas pour divorcer. C'est un commandement pour quoi ? Pour ne pas se remarier. Alors ne soyez pas confus. C'est donc une interdiction de se remarier. Voilà ce qu'est Deutéronome 24. Mais quelles sont les raisons pour le divorce? Comme je l'ai dit, la seule chose que nous pouvons voir, c'est l'adultère. Laissez-moi voir si je ne peux pas vous aider à le voir. Retournez un instant dans l'Ancien Testament, dans Esdras, chapitre 10. Chapitre 10, et c'est une partie quelque peu difficile, mais qu'il faut traiter. Esdras, chapitre 10, verset 3. Concluons dès lors une alliance avec notre Dieu, pour le renvoi de toutes ses femmes et de leurs enfants. Maintenant voici le peuple de Dieu qui dit « Concluons une alliance avec Dieu pour répudier nos femmes, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, que l'on agisse d'après la loi. » La raison de ceci est qu'ils avaient épousé des païennes. Dieu le leur avait interdit, mais ils avaient contracté des mariages mixtes. Ils étaient devenus des adultères spirituels. Ils avaient abandonné Dieu. Ils avaient abandonné les commandements de Dieu. Ils avaient épousé ces femmes de l'adultère. Et il y a un sens réel dans lequel Dieu ne reconnaît même pas ces mariages. Alors ils se sont dit, « Débarrassons-nous de ces femmes, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Fortifie-toi et agis. » Puis Esdras se leva et fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Ils le jurèrent. Maintenant, voici un plaidoyer en faveur du divorce. Il leur est demandé de divorcer. Et c'est très difficile, à ce point, d'interpréter spécifiquement le passage. Mais en général, il dit « Ils avaient contracté des unions adultères. Il est possible qu'ils aient répudié leurs épouses juives pour épouser ces femmes païennes, et Dieu n'avait pas considéré cela comme des mariages légitimes. Mais plus encore, ils s'étaient intermariés dans l'adultère spirituel, et Dieu considère le divorce légitime en pareil cas. Maintenant, que j'aille un peu plus loin. Les païens vivent de l'adultère. En d'autres termes, leur adoration païenne était adultère. Ils avaient des prostituées de temple, aussi bien mâles que femelles. Et quand ils allaient adorer, par exemple, les adorateurs de Baal entraient et se livraient à des orgies sexuelles. Et je crois que la raison qui pouvait justifier le divorce légitime ici était que leurs épouses étaient des adultères païens et des idolâtres, d'accord? Et sur cette base, Dieu leur permet de se séparer de ces femmes ou maris qui sont engagés dans cette adoration incessante, continue de faux dieux, connectés non seulement à l'idolâtrie, mais aussi à l'adultère. Implicitement, on voit ici qu'ils devaient divorcer à cause de l'intermariage avec les idoles et l'union physique qu'ils avaient avec les prostituées qui étaient idolâtres. Ceci signifie que là où il y a adultère, le divorce est légitime. Un texte très important. Permettez que je vous amène à un autre niveau, encore plus important. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, verset 1. Dans ce verset, le Seigneur confronte un peuple rebelle, désobéissant, pécheur. Il leur parle en tant que leur mari. Israël, mon épouse, je suis son mari, c'est l'idée. Et ici le Seigneur dit donc, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Où est votre certificat de divorce devant Dieu? La réponse est bien entendu qu'ils n'en ont aucune. Il dit en d'autres termes, comment osez-vous vous joindre aux idoles? Comment osez-vous commettre l'adultère spirituel? Comment osez-vous abandonner Dieu et l'adoration du vrai Dieu? Comment osez-vous m'abandonner, moi, votre mari, ô Israël? Comment osez-vous le faire? Où est votre lettre de divorce? Qu'est-ce qui vous donne le droit de le faire? Vous ai-je répudié? Et la réponse, bien sûr, est non. Mais regardez Jérémie 3, verset 8. Et là, on est à une époque ultérieure à Ésaïe. Depuis 700 ans, Dieu n'a fait qu'appeler Israël. Depuis 700 ans, il leur a dit d'arrêter leurs idoles, leur adultère spirituel. Pendant 700 ans, Israël a vécu dans l'adultère spirituel, se joignant à d'autres maris, à d'autres déités. 700 années d'adultère spirituel continuent avec d'autres dieux. Finalement, après les 700 années, Jérémie, chapitre 3, verset 8, dit « Quoique j'ai répudié l'inconstant Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce. » Maintenant, devinez qui l'a répudié. Qui le fait? Dieu, après 700 ans. Dieu répudie Israël. Voilà ce qu'il dit. C'est l'analogie qu'il utilise. Et il le fait à cause de ses adultères. Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'est la base du divorce dans l'Ancien Testament, c'est l'adultère, parce que c'était le seul moyen possible de briser un mariage. Parce que si vous commettiez l'adultère, vous mouriez, et cela brisait le mariage, et libérait le partenaire. Mais si Dieu vous faisait grâce, et ne vous ôtait pas la vie, le divorce était permis, mais uniquement en cas de dureté de cœur, que l'on ne pouvait résoudre, voyez-vous, et il fallut à Dieu 700 ans avant d'arriver à ce point. C'est donc une grande illustration de patience, n'est-ce pas? Vous ne dites pas, mon mari l'a fait une fois, je ne veux plus de lui. Cela requiert beaucoup de compréhension. C'est à cause d'une dureté de cœur continue. Alors même Dieu avait divorcé. C'est un passage très, très important, parce que, mon ami, Dieu ne fait pas des choses qui ne sont pas justes, et Dieu ne nous donne pas des illustrations vivantes de son comportement, que nous ne pouvons pas émuler. Le comprenez-vous? Voilà pourquoi je suis attristé quand les gens viennent me dire qu'il n'y a pas de place pour le divorce. Si, mais ce doit être un cas d'adultère prolongé, non repentant et irréconciliable. C'est l'essence même de ce que le Seigneur indique. Dans Jérémie 31 et 32, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Savez-vous ce qu'il fera? Il va se remarier. Savez-vous avec qui il va se remarier? Avec la première femme, Israël. Il va se remarier avec la maison d'Israël, avec la maison de Jacob. Verset 32. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Cela confirme que Dieu n'était plus leur mari, mais il va les épouser à nouveau et restaurer l'alliance, et conclure une nouvelle alliance. Donc le divorce est permis, en cas d'adultère. Quelqu'un pourrait poser cette question. Pourquoi le divorce avait-il remplacé la mort? J'ai déjà suggéré une raison. La première raison, c'est que Dieu est gracieux. Peut-être que la même raison pour laquelle, dans l'Église primitive, Ananias et Saphira étaient morts, pour n'avoir pas apporté au Seigneur ce qu'il lui avait promis. Ils sont morts cependant. Plusieurs autres personnes au cours de l'histoire de l'Église l'ont fait, mais ne sont pas mortes. Dieu établissait des exemples, et Dieu est patient envers nous. Mais je pense aussi que la mort n'était pas imposée, parce qu'il n'y avait personne de suffisamment pur pour l'imposer. En effet, tous ceux chargés de l'exécuter auraient dû commencer par se tuer eux-mêmes, parce que la nation pullulait d'adultère. En fait, vous souvenez-vous de la femme prise en flagrant délit d'adultère dans Jean 8? Ils étaient tous là, leur pierre à la main. Tous les pharisiens s'apprêtaient à lapider cette femme. Ils l'avaient prise en flagrant délit, et l'homme s'est levé et a fui. La femme est là, et ils sont prêts à la lapider. Jésus les regarde droit dans les yeux et leur dit, « Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur elle. » Il aurait pu leur dire, « Vous êtes vous-même une bande d'adultères. Comment osez-vous être si hypocrite ?» Nous voyons donc ainsi l'idéal de l'Ancien Testament. Jésus ne fait que le répéter, juste le répéter. Retour à Matthieu 19 maintenant. Dieu n'avait prévu le divorce pour aucune raison. Mais là où il y avait adultère, Dieu tuait le partenaire. Voilà quel point le mariage est sacré. Il ne voulait pas que vous commettiez l'adultère. Vous risquiez de mourir. Mais Dieu était plein de grâce, et les hommes pécheurs. Et là où il y avait un cas constant et irréparable d'adultère, Dieu permettait le divorce. Mais la permission de l'Ancien Testament visait à résoudre des problèmes uniques et pratiques dans un monde imparfait, pécheur. L'adultère est la seule chose qui peut rompre le lien. Et s'il ne rompt pas le lien par la mort, il peut le rompre par le divorce. Et comme je l'ai déjà dit, si le divorce est une concession miséricordieuse pour le coupable de l'adultère, disons-nous donc que parce que Dieu fait miséricorde au coupable, il pénalise l'innocent. En d'autres termes, disons que dans l'Ancien Testament, votre mari commet l'adultère. Il est mort. Il n'a aucun moyen de se repentir. S'il n'est pas racheté, il est en enfer pour toujours. Êtes-vous libre de vous remarier? Bien sûr, la mort met un terme au mariage. Si Dieu vous permet de divorcer, il permet à l'autre personne de vivre pour avoir le temps de se repentir, d'être restauré et même racheté. Parce qu'il est plein de grâce pour cette personne, pénalise-t-il cette personne innocente à rester célibataire à vie? Difficilement, parce que Dieu ne fait pas de négociation. Il ne fait pas grâce à l'un pour faire porter le chapeau à l'autre. Et nous croyons donc que là où il y a raison de divorcer, il doit y avoir raison de se remarier. Après tout, le but du divorce était de montrer de la miséricorde au coupable, non pas pour condamner l'innocent au célibat, à une solitude ou à la misère à vie. Alors l'idéal du mariage reste le même, et Jésus dit que la seule raison pour laquelle Moïse a permis le divorce, c'était la dureté des cœurs. Maintenant le verset 9. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Le mot infidélité étant un terme vaste qui englobe l'adultère. Ici, Moïcheia et Porneia sont dans le même passage, comme Matthieu 5, que nous avons déjà vu. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée, commet l'adultère. Et Jésus reprend la même chose qu'il avait déjà dite dans Matthieu 5, versets 31 et 32. La même chose dans Deutéronome 24. Lorsque vous divorciez pour une raison autre que l'adultère, vous prolifériez plus d'adultère. Ce verset n'est pas nouveau. Ce n'est pas une nouvelle pensée. Ce n'est pas une nouvelle vérité. C'est Deutéronome 24 qui revient encore. C'est Matthieu 5, verset 32. Exactement la même affirmation est faite ici. Ce n'est rien de nouveau. C'est le même vieux principe. Vous voyez, dans Matthieu 5, au sermon sur la montagne, les pharisiens disaient que nous ne commettons pas l'adultère. Nous ne commettons pas l'adultère. Et Jésus leur répond, « Si, vous le faites. Vous commettez l'adultère de deux façons. Premièrement, quand vous regardez une femme avec convoitise, vous commettez l'adultère dans votre cœur. Deuxièmement, vous commettez l'adultère parce que vous divorcez sans raison fondée, et en le faisant, vous répandez l'adultère partout. Vous êtes donc des adultères de premier ordre. » C'est exactement ce qu'il dit. L'expression clé, non sur la base de la fornication ou de l'immoralité. C'est un mot communément utilisé pour englober l'adultère. Par exemple, 1 Corinthiens 10, verset 8 dit clairement « Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité ». Le même mot est utilisé, sexuel, comme firent certains d'entre eux, et, en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. Maintenant, les gens diront « Bien, on ne parle que de fornication ici, et non d'adultère. C'est en dehors du mariage. Le mariage n'est pas inclus. Ils vont donc expliquer que toutes les 23 000 personnes qui avaient été tuées par Dieu et mentionnées dans 1 Corinthiens 10 n'étaient pas mariées. C'est idiot. Évidemment, ce mot fait référence au sexe hors mariage et à l'adultère. Il ne fait pas référence qu'aux Israélites non mariés ou aux Corinthiens non mariés. Ce mot englobe tout le péché sexuel. Maintenant, un mot de Paul va peut-être nous aider à combler notre pensée. 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Ici, Paul réaffirme la même vérité fondamentale. Ne quittez pas votre mari. Mais si elle s'en va, supposons que vous décidez de le faire, vous faites vos bagages et partez. Qu'elle demeure, comment? Sans se marier. Vous n'avez aucun fondement pour vous remarier. Que deviendrez-vous si vous le faites? Une femme adultère. Mais il vous reste une deuxième option. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari, puis il ajoute. Et que le mari ne répudie pas sa femme. Restez donc mariés. Très, très important. Et nous reviendrons dans 1 Corinthiens la semaine prochaine, quand nous verrons plus de choses. Nous avons donc vu Jésus défendre l'idéal de Dieu et réduire les pharisiens au silence. En fait, il les a présentés comme des adultères. Alors, en venant à lui, ils marchaient vraiment sur une scie mécanique. Ils essayaient de le ridiculiser, mais avant la fin de la conversation, ils sont là, debout, une bande d'adultères, à la vue du public. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu, pour n'importe quel motif. Cela n'a jamais été sa volonté, pour n'importe quel motif. Il n'est permis qu'en cas d'adultère prolongé et non repentant. Autrement, il souille les gens. Permettez que je conclue ici avec une chose clé. Les gens posent toujours des questions sur le droit de se remarier. Et je voudrais que vous sachiez que la Bible affirme que le remariage est permis. Vous demandez, où cela est-il écrit? Bien, regardez avec moi, d'accord? Romains 7, verset 3. Si donc, dit-il, du vivant de son mari, et il parle d'une femme mariée, si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Vous ne pouvez pas épouser un autre homme, du vivant de votre mari. Vous ne pouvez pas avoir deux maris. Ce serait la bigamie. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère, en devenant la femme d'un autre. Maintenant, ce passage dit que le remariage est permis, d'accord? Il est juste de se remarier, si votre mari meurt. Tout ce que j'essaie de ressortir, c'est que le texte dit que le mariage est permis, sous réserve de certaines circonstances, dont l'une est quoi? Le décès du conjoint. Maintenant, 1 Timothée, par exemple, chapitre 5, verset 14. Je veux donc que, dit Paul, je veux, mon désir, voici ce qui est mieux. Les jeunes se marient. Et cela a à voir avec le remariage, parce que le texte dit en réalité les jeunes femmes, c'est-à-dire les veuves, et tout le passage parle des veuves. Vous remontez au verset 4, et c'est là qu'il commence. Que les jeunes se remarient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin de ne donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Les jeunes veuves sont donc interpellées à se remarier. Le remariage est donc permis. Regardez à 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Alors, si vous êtes veuf ou veuve, vous avez le droit de vous remarier. Dieu n'est donc pas contre le remariage en général. Regardez le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors, dans tous ces passages, il y a un encouragement à se remarier en cas de décès. Maintenant, il semble conséquent de dire ceci. Si Dieu permet le remariage en cas de décès, alors en cas d'adultère, si Dieu devait appliquer strictement la loi, il y aurait toujours une possibilité de se remarier, n'est-ce pas? Et le fait que Dieu permette le divorce ne signifie pas que lorsque la personne ne peut pas être réconciliée, il n'y a aucun espoir pour elle et qu'elle doit rester célibataire toute sa vie. Je pense que ce sera jeter la confusion dans la question. Je crois donc que Dieu permettra le remariage en cas d'adultère ayant entraîné le divorce. Maintenant, lisons 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 27, un moment. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Que signifie cela? Êtes-vous divorcé? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. En d'autres termes, si vous avez été séparé d'une femme, le texte ne dit pas de quelle façon. Si vous avez été séparé d'une femme, et que cela est justifié et légitime, et selon le standard biblique, vous ne péchez pas si vous vous remariez. Vous n'avez pas péché. Dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. N'est-ce pas intéressant? Mettre une personne ayant déjà été mariée dans le même lot qu'une Vierge. Nous croyons donc que Dieu permet le mariage là où le divorce a été fait selon le standard biblique. Maintenant, nous avons achevé la conversation entre Jésus et les pharisiens. Mais ce qui est très fascinant dans ce passage, c'est la réaction des disciples, et nous verrons cela la semaine prochaine. Prions. Père, nous savons que c'est facile de chercher des excuses pour notre péché dans les Écritures, de chercher des moyens de ne pas suivre ta volonté. Nous n'en avons pas l'intention. Nous voulons juste comprendre ta vérité. Nous voulons juste comprendre que le divorce t'est haïssable. Mais tu es un Dieu gracieux, miséricordieux et qui pardonne. Et en cas d'adultère, là où il ne peut y avoir réconciliation, tu n'as pas condamné celui qui cherche à faire ce qui est droit, à une vie d'abus et de misère, mais tu lui as offert une alternative de se remarier dans le Seigneur. Mais en dehors de cela, Seigneur, tu as vraiment bien établi les règles. Pas de divorce et pas de remariage, sinon tout le monde deviendra adultère. Merci pour cette parole claire de ta part. Et puissions-nous ne jamais trahir la femme de l'alliance de notre jeunesse. Puissions-nous renouveler dans nos cœurs chaque jour l'alliance faite entre deux et toi. Et puissions-nous célébrer avec joie ce que tu as uni, la douce, douce grâce de la vie, la compagnie aimable et tendre d'un homme et d'une femme. Seigneur, nous savons que lorsque les gens respecteront cette alliance, ils s'aimeront profondément et véritablement, et te garderont comme focus. Tu déverseras une grande bénédiction sur cette union, à tel point qu'ils ne pourront la contenir. Mais dès qu'ils violent tes principes, tu appliques ton juste châtiment. Ainsi donc, Père, nous sanctifierons le mariage et nous affirmerons que bien que tu permets le divorce et le remariage dans les cas extrêmes, il n'en était pas ainsi au commencement. Nous prions que tu élimines le divorce de notre assemblée dans les jours à venir, que tu restaures ceux qui sont en plein divorce, que tu ramènes ceux qui l'ont déjà fait. Je te remercie pour l'invitation que j'ai reçue cette semaine, l'invitation au mariage de deux personnes qui étaient divorcées et qui se remarient. Nous ne séparerons pas ce que tu as fait. Bénis les mariages de cette Église. Nous te remercions de les avoir tous faits. Accomplis-les pendant qu'ils marchent dans ton obéissance.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.